Roberto, la va a poner Roberto, la pone Roberto, ya está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta.
Pas de match cette semaine avant de préparer le gros oral contre Manchester City en quart de finale de Ligue des Champions. L'occasion pour nous de faire un épisode et de parler de cette rencontre qui va valoir très très cher dans la fin de saison du Real Madrid, puisque c'est vrai que le Real avance vers un titre de champion de façon méthodique, rigoureuse, sérieuse. Mais pour la Ligue des Champions, il y aura un gros adversaire, ce sera le champion d'Europe en titre. On va essayer de vous donner toutes les données avant la rencontre pour, appréhender ce match dans les meilleures conditions, justement avec l'équipe habituelle que vous connaissez, avec Johan et Hicham de Real French Madrid, et aussi Pablo qui devrait arriver peut-être en cours d'épisode, on va voir. Et aussi avec un invité que l'on aura l'occasion de présenter dans quelques instants, donc Arthur, qui supporte justement Manchester City et qui est un membre actif de la communauté Citizen. Messieurs, bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Ouais. Ben, j'allais dire bonjour surtout à Arthur, qui nous fait le plaisir de venir sur notre podcast pour pouvoir parler de son équipe. Bienvenue à toi, Arthur.
Merci beaucoup de l'invitation. Ce sera un vrai plaisir de parler avec vous de ce match de mardi qui promet d'être très intéressant. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation et en vous souhaitant un bon podcast à tous.
Ah, merci beaucoup, Arthur, pour ça. Et surtout, voilà, on prend le temps aussi de pouvoir le faire, puisque je sais que tu as eu l'occasion d'intervenir à différentes reprises dans les podcasts de Sports Content, notamment pour pouvoir parler de football anglais, de Manchester City. Donc c'était pour nous tout naturel qu'on puisse t'inviter pour ça, puisque c'est vrai qu'on reprend une habitude, Johan, qu'on avait perdue, d'inviter nos adversaires en Ligue des Champions.
C'est ça, c'est depuis la saison 2021-2022. 2020-2021, il me semble, ouais.
Non, mais ouais, c'est ça, tout à fait.
Tu vois, avec l'Atalanta, Chelsea, tout ça.
Liverpool
aussi, ouais.
Ah, c'était... Ouais, bon, on va pas revenir
C'est à l'époque où Zidane était coach, ouais.
Ouais, ouais, on va pas revenir sur Chelsea. Ça va commencer à m'énerver.
On va pas revenir sur des choix, Hicham.
Des choix bizarres.
On va commencer le podcast doucement, monsieur.
Ouais, on va commencer. Plus sérieusement, c'est vrai qu'on va rentrer dans la projection. Nous, on n'a pas joué, Hicham, mais est-ce que on a vu dans le dernier épisode qu'il y avait Eder Militao qui est revenu, qui a justement quasiment tout le monde qui a à disposition, en tout cas, hormis les blessures longue durée, tout le monde est disponible dans le groupe du Real Madrid. Est-ce qu'il y a une tendance qui a évolué au cours de ces derniers jours? Est-ce qu'on va récupérer des joueurs? Est-ce que les joueurs sont prêts? Comment justement dans l'actualité de Real French Madrid les choses sont relayées?
Alors des changements de plan de ce qu'on a pu lire dans la presse, il n'y en a pas forcément. Donc oui, Eder Militao qui a pu jouer quelques minutes lors du dernier match, mais semblerait-il le plan ne
c'est pas
reste inchangé en fait.
C'est pas qu'il jouera pas quoi.
Ouais. Voilà, il jouera pas titulaire en tout cas. Mais c'est plutôt une bonne chose. On a pu aborder le sujet dernièrement. Il faut attendre avant de retrouver son niveau sur le terrain, en tout cas à 100%, puisque manifestement, il a pu récupérer à 100% de sa blessure. Maintenant, sur les autres joueurs, on est quand même sur une bonne dynamique, globalement, pour les titulaires et les joueurs qui ne sont pas à l'infirmerie. Donc, si on commence sur le front de l'attaque, on retrouve un Rodrigo sur le dernier match qui est bon. On espère que c'est de bon augure contre Manchester City.
N'est-ce pas, Johan?
Oui, on est
d'accord. on retrouve Vinicius, enfin, plutôt Vinicius toujours, toujours sur une bonne lancée. Il a pu se reposer le dernier match pour cause de carton, de suspension. Bellingham, qui fait du Bellingham, toujours aussi excellent. Et puis au milieu de terrain, c'est quand même assez bien huilé. Kamavinga, ouais, Kamavinga qui devrait reprendre du service contre Manchester City. Et après, je ne cite pas hein, tous les Kroos, Tchouaméni, le Fede Valverde, qui sont vraiment dans une excellente forme sur cette fin de saison. Et enfin, en défense, voilà quoi, on compose avec les joueurs qu'on a. C'est vrai qu'il nous manque peut-être, comme on le disait au début, Eder Militao en défense centrale, mais ça sera probablement compensé par un Tchouaméni. En tout cas, on ne veut pas voir un Nacho, ça serait... Ah. ouais, bah, faut être clair, les gars.
Il y a un Kamavinga arrière gauche. Hein.
Ah, et de Kamavinga arrière gauche, ça serait une dinguerie absolue. Donc, voilà, on espère faire Lamendi, Carvajal, et puis Talounine... qui est dans les cages, et Courtois, des dernières news qu'on a pu lire, il sera...
À la fin du mois.
À la fin du mois, tout à fait. Tout à fait. À la fin du mois, il sera dispo, et donc pas contre Manchester City, manifesto.
Ben, justement, parce que Yohan, c'est lui qui a raté le dernier épisode. On était sur un débat en défense centrale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre deux défenseurs centraux de métier contre Manchester City, ou... mettre Aurélien de Saïd Tchouaméni en défense centrale?
Moi, je suis plus pour la continuité. Je pense qu'il est qu'il ne vaut pas surtout, il ne vaut mieux pas surtout face à un adversaire tel que Manchester City changer les plans à la dernière minute. Moi, je serais pas rassuré à ce niveau-là. Après, tu me diras peut-être que ça peut en remettant justement une défense centrale traditionnelle. Ça peut permettre également de brouiller les pistes vis-à-vis des faiblesses que pourrait analyser Pep Guardiola, parce qu'on sait très bien hein, la science tactique qu'a Pep Guardiola. On sait très bien les failles qu'il pourrait analyser par rapport notamment à quelqu'un comme Aurélien Tchouaméni, qui n'est pas à son poste de prédilection. Mais moi, je miserais plus, surtout que le match aller se joue à Bernabeu, sur la continuité. Je pense que c'est la meilleure des choses. Maintenant, Aurélien Tchouaméni, ça sera l'occasion pour lui de continuer dans son processus justement de joueur de très haut niveau qu'il est en train de devenir petit à petit, parce qu'il est quand même arrivé à l'été 2022. Donc voilà, j'espère que Carlo Ancelotti restera sur ce dispositif-là avec ses deux défenseurs centraux, dont un qui n'est pas à son poste de prédilection.
D'accord.
Et Johan, tu penses que... Est-ce que Carlo Ancelotti, alors question pour Johan ou peut-être pour Arthur, vous pensez pas que Carlo Ancelotti, en ayant titularisé Nacho lors du dernier match en défense centrale, a peut-être semé
le doute.
Peut-être un doute pour justement Pep Guardiola, comme tu le disais Johan à l'instant. Est-ce qu'il n'aurait pas décidé de titulariser Nacho pour faire un poker? Voilà. Comment ?
Non, c'est ça en fait. En gros, de dire est-ce que voilà, c'était pas histoire de brouiller les pistes, de se dire tiens, Nacho titulaire.
Ouais. Et de mettre un doute à Pep Guardiola et de dire ah, ouais. Attention, qu'est-ce que je fais avec Nacho ? Est-ce que ça sera vraiment Tchouaméni ?
Je vais laisser Arthur répondre d'abord.
Exactement. Il en pense quoi, Arthur, justement, puisqu'il faut qu'on l'entende un petit peu sur le Real Madrid. Après, on l'entendra sur Manchester City plus longuement tout à l'heure.
Franchement, je pense qu'aujourd'hui, pour déstabiliser Guardiola, il faut quand même envoyer un peu de la sauce, entre guillemets, dans le sens où c'est quand même compliqué, tactiquement parlant, de proposer des surprises à Guardiola. Après, concernant le Real Madrid, moi, je vais donner mon avis en simple supporter adverse. Moi, je ne suis pas comme vous à suivre ce club toutes les semaines. C'est sûr que moi, de ce que je connais de Nacho, c'est forcément un défenseur qui n'est pas le meilleur défenseur, on va dire, du côté du Real Madrid. Donc forcément, ça change pas mal de choses de le voir sur le terrain ou de ne pas le voir sur le terrain par rapport à tout l'aspect tactique que le Real Madrid peut proposer. Mais moi, ce que je retiens de Guardiola sur les dernières années, c'est que mine de rien, si on regarde les doubles confrontations sur un aller-retour, la différence entre le match aller et le match retour est complètement flagrante. Guardiola a appris justement à comprendre qu'il ne faut pas forcément aller chercher un résultat ultra positif sur un match aller, mais plutôt s'en sortir avec un match nul qui nous met dans une bonne position pour le match retour. Et donc déjà, je trouve que sur ça... l'aspect tactique de l'équipe adverse, on va dire, joue moins en fait dans ce que propose le Manchester City de Guardiola contrairement à avant. Parce qu'en fait, je me souviens très bien qu'avant, dans les matchs qu'on perd notamment face à Tottenham sur des scénarios de fou.
En 2019.
Voilà. On cherchait toujours en fait au match aller à aller chercher tu sais ce but de la victoire, à se découvrir et on prenait énormément de buts en contre, on prenait des buts assez faciles. Et Guardiola a quand même changé sa facette à ce niveau-là. Il préfère assurer sur des matchs aller tranquille. Je prends tous les exemples de l'année dernière où on fait match nul à Leipzig, match nul au Bayern et match nul au Bernabeu et où à chaque fois au retour en fait on fait des super matchs où on gagne plutôt largement en proposant vraiment un autre aspect tactique. Donc en fait tout ça pour dire
juste pour corriger, c'est qu'au Bayern l'année dernière, c'est le match aller hein, qui se joue à.
C'est le match aller, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que la vision de Guardiola sur les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions a changé. Et je la trouve meilleure, forcément, parce que ça fonctionne de façon meilleure. Donc je ne vais pas dire le contraire. Et c'est tout ça, en fait, je voulais en venir à tout ça pour dire qu'en fait, est-ce que ça va vraiment déstabiliser Guardiola ou est-ce que Guardiola va réellement changer quelque chose dans son équipe ou ce côté-là? Honnêtement, je ne pense pas. Après, je peux me tromper, encore une fois. Mm-hmm. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'il a son idée en tête et qu'aujourd'hui, Manchester City, bien sûr, s'adapte à l'adversité comme toute équipe, mais s'adapte moins qu'avant. Parce que Guardiola, avant, il voulait sortir du lot, il voulait toujours faire des surprises au dernier moment en fonction de l'adversaire dans lequel il jouait. Et généralement, ça nous a quand même coûté énormément de qualifications. Donc, je pense que ça joue moins. Et surtout sur un match aller où Guardiola, à l'extérieur, maintenant, prend beaucoup moins de risques qu'à l'époque.
Donc, mais pour appuyer ce que dit Arthur... C'est ce qu'on revient, on en revient à ce qu'on disait par rapport à Guardiola, plus ou moins off, c'est que il y a cette connaissance tactique en fait, parce que là, ça nous fait penser à quoi, Gilles Christou qui suivent le foot depuis le milieu des années 80, depuis la fin des années 90, bah, comme les équipes italiennes à l'époque, le match, la double confrontation.
Exactement. Le match aller, on ne se qualifie pas au match aller.
Voilà, exactement. Ouais. C'est au match retour justement où on valide la qualification. Et je pense que Guardiola, justement, de par notamment les expériences qu'il a dû connaître avec les coachs qu'il a connus, notamment les Carlo Mazzone. Bon, il est parti aussi en Italie. Hein, et Guardiola. On sait très bien que Guardiola, c'est un cocktail de tous les grands tactiques qu'il y a eu dans les années 90.
Un cocktail, c'est le cas de le dire, surtout en Italie pour Guardiola.
Exactement. Donc c'est un cocktail de tous les grands entraîneurs qu'il a connus en tant que joueur, mais aussi sur lesquels il s'est inspiré. Donc voilà, non, je pense que, ouais, pour appuyer ce que dit Arthur, oui, je pense que Guardiola est aujourd'hui dans un aspect beaucoup plus rationnel, en fait, sur le fait que c'est sur le match retour où tout va se jouer. Et je pense que c'est ça aussi qui a permis à Manchester City d'être champion la saison dernière, d'être champion d'Europe la saison dernière.
Ben, justement, parce que là, si j'entends ce que vous dites, c'est en gros... C'est bien de faire ce que vous voulez, que vous mettiez Tchouaméni, que vous mettiez Nacho, que vous mettiez, je sais pas, peut-être même Carvajal en défense centrale. En gros, Guardiola, lui, s'en fout complètement. Même City s'en fout complètement. Parce que ça revient, en fait, non, ça revient au même, on va dire. Que...
Non, je caricature, là. J'ai...
Non, bien sûr, je grossis le trait, mais je le fais exprès.
Non, oui. bien sûr qu'il y a une adaptation. Je suis pas en train de dire que City s'adapte pas à son adversité. Bien sûr qu'on s'adapte en fonction de qui on joue, de comment ça joue, de l'aspect tactique que le Real Madrid va mettre en place, surtout sur des matchs à enjeu comme ça. Mais je pense pas que ça change tous les plans de Guardiola et surtout sur un match aller. Tu vois, tu m'aurais peut-être dit qu'il y avait une interrogation sur le match retour. Là, peut-être je t'aurais dit ah attention, c'est le match retour. Tu vois, match aller, bon, c'est quand même différent. T'as quand même le match retour comme on l'a dit où c'est réellement ce match-là où tu joues la qualif. Donc pour moi, bien sûr Guardiola va s'adapter un minimum au Real Madrid, mais va pas non plus changer tout son plan de jeu et tout son aspect tactique pour ça.
Ouais, par contre, concernant le Real Madrid, juste dernière chose concernant le Real Madrid, je pense que là c'est au Real Madrid de faire en sorte de se rendre le match retour plus abordable, parce qu'en fait, ce qui a manqué la saison dernière, parce que la saison dernière, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le Real Madrid a loupé certaines occasions qui auraient pu lui permettre de prendre le large avant que Kevin De Bruyne égalise. Et je pense que c'est ça aussi qui fait une différence par rapport au match retour où le Real Madrid justement s'est fait étouffer, s'est fait littéralement manger de A à Z. Donc là, je pense qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le maximum pour qu'on puisse faire tomber City avec au moins deux buts d'écart. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut absolument et impérativement gagner ce match aller parce que sinon, au match retour, si City est dans un ballotage où il n'a plus qu'à gagner entre guillemets pour pouvoir se qualifier. Parce que aujourd'hui, comme la règle du but à l'extérieur n'est plus, je pense qu'aujourd'hui, en tant que coach, si tu te mets dans la peau d'un coach, tu peux aborder certains matchs retour d'une manière beaucoup plus simpliste, en fait. Parce que l'année dernière, je pense que Guardiola, avec un 1-1 l'année dernière à Bernabéu, il s'est juste dit, il faut juste gagner le match retour et les exploser au match retour. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je pense qu'en fait, le fait qu'on ait enlevé la règle du but à l'extérieur rend beaucoup plus simple en fait la tâche du coach concernant les objectifs, parce qu'il n'y a plus justement cette obsession de ne pas vouloir encaisser de but due à la règle du but à l'extérieur. Donc je pense que ça, c'est pour ça que je pense que voilà, le Real Madrid va devoir, je pense, faire le maximum pour mettre le plus de buts possible et surtout gagner avec le plus, enfin pas mettre le plus de buts possible, mais gagner avec le nombre de buts d'écart le plus conséquent possible.
Mais Hicham, est-ce que tu penses que c'est jouable, quelque chose de un scénario de cette mesure, connaissant nos forces, puisque on va dire qu'on sait, on va dire le 11 qui va ressortir à peu près de cette rencontre face à ce City là qui justement donc est le tenant du titre. On aura l'occasion de pouvoir parler tout à l'heure de l'historique du Real Madrid, notamment Ligue des Champions, dans ses configurations de quart de finale, etc. Mais est-ce que là, par rapport à ce que dit Johan, est-ce que le Real peut se permettre d'envisager une victoire large, entre guillemets, pour pouvoir préparer le match retour dans les meilleures conditions?
Déjà, je suis totalement d'accord avec Johan, parce que je pense que c'est le plan qui doit se faire. On avait posé la question en off il y a quelques semaines de ça avec Abdou, et je t'avais dit que j'étais vraiment dubitatif et je savais pas quelle position adopter. Est-ce qu'il faut tout donner au match aller et gagner au retour? Est-ce qu'il faut être réservé et essayer malgré tout d'aller chercher quelque chose au match retour? Là, pour moi, le plan, il est plutôt clair. Il va falloir gagner, comme le disait Johan, avec un avantage le plus large possible. On a les qualités pour le faire. On a un Real Madrid clairement qui a des forces, qui a les joueurs pour faire ces différences-là. Après, contre ce Manchester City, qui, sauf erreur de ma part cette saison, n'a pas encaissé plus de buts ou de 3 buts contre n'importe quelle équipe. Enfin, tu me corriges, Johan, si c'est le cas ou pas.
Ou Arthur aussi.
Arthur, excuse-moi, je voulais dire Arthur.
Non, il me semble pas non plus.
Est-ce que vous avez déjà encaissé plus de 2 buts cette saison? Plus de 3, même 3 buts.
Je suis en train de réfléchir au passage un peu à vide début décembre, novembre.
Il y a eu 2 buts encaissés contre Luton sur une victoire 6-2 en cup.
6-2, mais contre Crystal Palace, là, il y a eu 2 buts. Leipzig aussi, 2 buts aussi.
Il y a Chelsea, on en prend
4. Avec 2 buts d'écart.
Oui, c'est vrai qu'il y a
Chelsea. Donc
ça permet aussi.
Il y a victoire 3-2 à Newcastle après avoir été mené 2-1 à un moment donné, je crois.
Voilà, exactement. Il y a eu match nul, ce match à 3-3.
Non, vous aviez gagné 3-2.
Ça ouais, permet d'aiguiller, du coup.
Newcastle.
Donc,
repars sur...
Du coup, ça permet d'aiguiller un peu cette question. C'est-à-dire que City est capable d'encaisser 2 buts, voire plus. Est-ce qu'on va réussir à le faire dans un match en jeu? Moi, j'aimerais y croire. Et par contre, c'est une tâche qui est quand même assez compliquée. Hein. C'est... Manchester City, défensivement, c'est vraiment très solide. C'est ce qui se fait quasi de mieux en Europe aussi. Nous aussi, hein, en parallèle, on a les statistiques qui parlent pour nous. Je crois qu'on est la meilleure défense de la Liga, sauf erreur de ma part.
Une des meilleures en Europe aussi cette saison.
Quand tu regardes clairement les derniers matchs, pour l'un des derniers matchs que j'ai pu voir de Manchester City, c'était celui contre Arsenal la semaine dernière. City a quand même tactiquement certaines failles. Ils sont pas non plus imbattables et il va falloir essayer de faire les différences sur ces failles-là. Notamment le fait qu'ils jouent bloc haut, avec un bloc assez haut, ce qui laisse énormément d'espace derrière. Et quand tu as des Vinicius, quand tu as des Fede Valverde, quand tu as des Rodrigo qui permettent d'apporter de la verticalité dans un schéma tactique, dans des transitions offensives aussi, bah là clairement tu sais que tu peux faire mal à ce Manchester City. Est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça c'est une autre histoire. Est-ce que Guardiola aussi va pas essayer de corriger ses pépins? On verra. Bon, c'est pour ça que ça se joue mardi. On verra ça.
Mais justement Arthur, moi la question que j'avais envie de poser, c'était de savoir par rapport à l'année dernière où on a vu City tout gagner, que ce soit en Angleterre ou en Europe, quand je dis tout, voilà, je compte pas la Coupe de la Ligue, ça reste, on va dire, anecdotique. Quand on voit City de l'année dernière, on voit City de cette saison qui est à la bagarre justement avec avec Liverpool et Arsenal dans la course au titre, et qu'on voit aussi certaines rencontres. C'est vrai que moi j'étais très attentif à ce qui s'était passé contre Crystal Palace, même si je pense que il y a eu quand même des joueurs qui n'ont pas été alignés, comme Foden, comme Bernardo Silva, qui ont été ménagés, il me semble. Est-ce que City de 2024 semble, voilà, est aussi fort ou peut-être plus fort, on va dire, que le City de 2023? Comment toi tu vois les choses de cet aspect-là? Parce que nous, on commence à parler de confiance pour pouvoir faire peut-être un gros résultat au match aller. Mais est-ce que c'est fondé par rapport à l'état de forme de City ces dernières semaines?
Alors moi déjà, si je peux comparer avec l'année dernière, c'est vachement compliqué à comparer, parce qu'en fait on connaît déjà la finalité de la saison dernière, qui est le fait qu'on ait tout gagné, et ce qui n'est pas toujours le cas encore cette saison forcément, puisque la saison n'est pas terminée. Maintenant, si on fait un comparatif compétition par compétition, en première ligue l'année dernière on était derrière Arsenal à 5-6 points à ce moment de la saison, on était en demi-finale de FA Cup et on était en quart de finale de Ligue des Champions. Donc si on compare avec l'année dernière au même moment de la saison, on est à peu près dans nos standards, si tu veux, en termes de points, en termes d'avancer dans nos compétitions. Maintenant, sur un plan de plus football, entre guillemets, et plus tactique et plus de jeu, il y a des aspects où on est moins bon que l'année dernière. L'aspect défensif, notamment, est clair et net. On est beaucoup moins bon que l'année dernière. On prend beaucoup plus de buts, dû, je pense, à des joueurs qui sont déjà individuellement moins forts. Je pense à Ruben Dias, qui, cette saison, pour moi, est beaucoup moins bon que l'année dernière. Il fait beaucoup d'erreurs défensives. Et on a quand même enchaîné pas mal de blessés derrière. Là, Walker sera sûrement pas disponible pour le match aller, même s'il y a encore des doutes. Je pense à Stones aussi, qui est souvent blessé. Du coup, on a moins de stabilité défensive. Donc déjà, si je pouvais souligner un premier aspect où pour moi le Real Madrid a une chance qui est plus élevée que l'année dernière, c'est sur l'aspect défensif, de nous faire un petit peu plus mal. Malgré le fait que vous n'ayez pas de neuf. Bon, ça reste un autre débat. Mais pour moi, c'est quelque chose quand même qui est important à souligner, le fait que vous n'ayez pas réellement de vrai numéro 9 comme avant. Ensuite, par rapport à City, ce qui est très important sur ces dernières semaines et ce qui me fait être réellement positif pour la fin de saison, c'est le retour de Grealish qui revient de blessure. Et en fait, si on est un spectateur de football qui a une réelle connaissance footballistique, on comprend que Grealish a un réel apport dans le jeu de Manchester City. Alors, c'est pas un mec qui va te mettre 20 buts, c'est pas un mec qui va te mettre 15 passes décisives, mais c'est un mec qui est hyper important dans le système de jeu de Guardiola. Et on l'a récupéré notamment cette semaine. Et quand on regarde avec Grealish, ça fait 4-1, 4-2. Et si tu regardes sur les dernières semaines, on n'arrivait pas à avoir ce genre de victoire, peu importe l'adversité. On n'arrivait pas à gagner avec un match dominé de la première à la 90e, avec pas mal de buts, avec quand même plutôt une bonne solidité défensive. Et sur ces deux derniers matchs, ça s'est quand même retrouvé, malgré le fait qu'on a encore encaissé quelques buts.
Parce que Doku a déçu justement à la place de Grealish côté gauche, c'est pour ça qu'on le déporte sur le côté droit.
Doku a pas forcément... En fait, Doku, c'est compliqué à assimiler. Il faut déjà comprendre que quand on arrive à City, il faut s'assimiler au système de jeu de Guardiola. Et quand tu regardes les arrivées de Bernardo et Mahrez par comparaison, c'est des joueurs qui ont mis du temps à s'intégrer. Les premières saisons n'ont pas été exceptionnelles. Et à partir de la deuxième saison, ça a été monumental et monstrueux. Donc pour moi, il faut laisser un peu de temps à Doku pour s'adapter à ce style de jeu qui est particulier. Surtout quand tu viens de Rennes et de la Ligue 1, c'est pas la même chose. Mais en fait, c'est juste que pour moi, Grealish est tellement indispensable dans son style de jeu, parce que Grealish c'est quelqu'un qui prend beaucoup moins de risques. Donc en fait, t'as beaucoup moins de déséquilibre, tu perds beaucoup moins de ballons et tu te mets beaucoup moins du coup en danger qu'avec un Doku qui va certes provoquer, qui va peut-être réussir plus de 1 contre 1, mais qui va aussi perdre beaucoup plus de ballons et donc créer beaucoup plus de danger en contre. Donc c'est là où pour moi Grealish est hyper important. Et ensuite, pour continuer vite fait sur les individualités, quand je vois les matchs que fait Rodri, qui est monumental au milieu de terrain, quand je vois le retour de De Bruyne sur le match face à Palace, qui met encore deux frappes sorties d'ailleurs.
Incroyable.
Et quand je vois la forme actuelle des mecs de devant, comme Foden notamment, et Haaland, même s'il est décrié, qui marque encore ce week-end, je peux que être forcément positif, parce qu'aujourd'hui, c'est la donne un peu qui a changé par rapport à avant. Avant, on craignait toujours le Real Madrid, on craignait toujours l'adversaire. Et aujourd'hui, on va dire que c'est peut-être plus le Real Madrid qui va nous craindre à nous que l'inverse. Et ça veut dire énormément, parce qu'on parle du Real Madrid. Et le Real Madrid, c'est quand même pour moi, et enfin pour tout football,
je suis pas d'accord.
Pour toute personne qui aime le football, le Real Madrid, c'est la référence mondiale et historique du football. Et aujourd'hui, quand je vois les réactions de tirage au sort, bah moi, je te dis honnêtement, forcément, ça ne me fait pas plaisir de taper le Real Madrid. Je ne vais pas te dire que j'ai sauté de joie quand j'ai vu le Real Madrid apparaître sur l'étiquette. Mmh. Mais je n'ai pas la même vision des choses qu'il y a certaines années, si tu veux. Certaines Hichem. Années, je t'aurais dit, voilà. Voilà
Hichem, juste avant que tu interviennes, je vais juste intervenir vite fait. Comme toi, Hichem, je suis pas d'accord, dans le sens où moi, je pense que le Real Madrid n'est pas. Je pense que le Real n'a pas nécessairement peur, mais le Real Madrid sait que pour ce match, il n'est pas forcément favori. Et je pense qu'un Real Madrid qui n'est pas favori, bien qu'ayant une bonne équipe, je pense que c'est un Real Madrid qui est très, très, très à craindre. Et je pense que moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est lors du tirage au sort, lorsque Real Madrid sort et que c'est Manchester City qui sort, il y a un focus sur la tête de Chiqui Bergstein et il n'est pas du tout
grave. Il se connaît.
Forcément. Ouais. Non, forcément, il va pas, il va pas sourire. Mais attention, quand je te dis, je redis quand même ce que je dis. Je suis pas en train de te dire que je suis très content d'affronter le Real Madrid et je suis pas en train de te dire que je suis ultra favori, ultra confiant et qu'il n'y aura pas match.
Tranquille, histoire, Arthur. J'ai pas du tout pensé ça. T'inquiète pas par rapport à ça. Après, moi, je pense que ce sont, comme t'as dit, ce sont surtout les internautes entre guillemets qui sont pas contents de tomber sur City.
Ouais, voilà.
Tout ça en fait, tu vois, c'est surtout la plupart des observateurs du football. Après, voilà, nous aujourd'hui, on va dire, on voit pas mal d'opinions, c'est surtout sur Twitter, etc., ou X, comme vous voulez. Et je pense que oui, il y a peut-être le fait qu'il y a ce traumatisme qu'il y a eu la saison dernière, le 4-0, qui fait que, mais je pense que du point de vue déjà de la Junta Deportiva au Real Madrid et des joueurs et surtout du coach, je pense que. Il n'y a pas nécessairement cette peur. Parce qu'en fait, on peut dire qu'on est prévenu par rapport à la saison dernière. Et je pense qu'avec la dynamique aussi qu'il y a cette saison-là, n'est pas celle de la saison dernière et de part et d'autre. Donc c'est pour ça, je pense que. Moi, je pense que City craint plus le Real Madrid que l'année dernière, j'ai envie de vous dire.
Un peu plus, peut-être.
Ouais,
T'en penses quoi, Hichem? Parce que quand tu as dit je ne suis pas d'accord, je me dis non, est-ce que tu n'es pas d'accord avec le fait que le Real Madrid n'est pas la référence mondiale du football? Là, c'est. On aurait été fondamentalement dans un problème.
non, c'est pas ça. Non, comme vient de le dire Johan, je pense que, effectivement, je vais essayer de compléter hein, ce qu'il dit par rapport à l'année dernière. Oui, il y a eu ce score. Plus ou moins historique selon le point de vue dans lequel on se place de 4-0 et ça certains joueurs de l'équipe effectivement l'ont en tête mais j'ai l'impression que ce Real Madrid a plus envie de montrer qu'il est effectivement une équipe légendaire, j'ai envie de dire, plutôt que être dans la crainte de ah mince c'est City. C'est quand même une des meilleures équipes d'Europe également. On risque de pas passer. Enfin, l'histoire du club et la philosophie, l'ADN du Real Madrid nous renvoie plus à. On aime ce genre de défi, surtout en Coupe d'Europe, et ce genre de soirée, c'est fait pour le Real Madrid. Après, on peut évidemment perdre. Hein, je dis pas qu'on va forcément passer, mais en tout cas, dans la disposition mentale que le club a et que certains joueurs ont très bien assimilé, il y a cette le fait d'être content, t'es jamais franchement content de tomber contre City, mais ouais, ça va être une belle soirée européenne. On va jouer contre Manchester City, qui est une des meilleures équipes d'Europe, et on va montrer qu'on est meilleur que Manchester City. En tout cas, on va essayer.
Alors, si je peux juste te répondre à ce que tu viens de dire, je suis bien sûr totalement d'accord avec ça, et je ne remettrai jamais en question tout ce qu'est le Real Madrid et tout ce que représente le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Et c'est justement ce qui fait la magie de ce club-là, c'est de se dire que peu importe quand tu l'affrontes, peu importe les forces en présence du Real Madrid, ça reste le Real Madrid dans la Ligue des Champions. Voilà. Et qu'en fait, tu ne sais pas ce qui peut se passer parce que c'est la magie du Real Madrid dans la Ligue des Champions. Moi, ce que je voulais souligner dans mon analyse, si tu veux, c'était plutôt que l'évolution qu'on a eue par rapport à la vision dont on voit le Real Madrid et dans la vision dont on voit le match aujourd'hui, si tu veux. C'était qu'en fait, on est passé d'un club qui, il y a quelques années, aurait craint le Real Madrid, on aurait été pas favori, on aurait été, dans un sentiment un peu plus d'infériorité. Et je te dis juste qu'aujourd'hui, il n'y a sûrement pas de supériorité, parce qu'encore une fois, c'est le Real Madrid, et le Real Madrid est supérieur par son histoire et par tout son vécu en champion.
Mais Manchester City est champion d'Europe.
Voilà, c'est ça que je veux juste assimiler. C'est l'évolution, tu vois, qu'on a, si tu veux. Je me dis que c'est plus forcément un match où on va forcément être très, très mécontent d'avoir tapé le Real, où ça va être un match où on va être de façon à être un peu, tu vois, pas favori, etc., et à craindre réellement le Real Madrid. Je pense que pour les deux, c'est un match parfait, parce qu'en fait, les deux veulent prouver qu'ils sont les meilleurs, et qu'en fait, ça passe par gagner face aux meilleurs. Et que dans tous les cas, c'est dans ce genre de match que tu vois réellement qui sont les meilleurs, et qui ira au bout en quelque sorte, si tu veux, parce qu'on sait très bien que la partie du tableau qu'on a et qu'on a avec Arsenal et le Bayern est la plus grosse partie du tableau en Ligue des Champions et qui a les meilleures équipes dans cette partie-là. Non, tu vois, c'était plus ça que je voulais dire. C'était pas du tout pour discréditer le Real Madrid et pas du tout dire que je suis trop confiant.
Non, non.
Parce que je sais très bien le poids du Real Madrid et je sais très bien le niveau du Real Madrid en Ligue des Champions.
Mais justement, on va poser la question à quelqu'un qui s'est un peu perdu dans les embouteillages. C'est Pablo. Pablo, tu viens d'arriver. Salut Pablo.
Pablo.
Salut les gars, ça va?
Ah, ouais, ça va, impeccable. Ben, je pense que là, tu suis les discussions là depuis quelques minutes sur cet avant-match contre Manchester City.
Ça fait 10 minutes à peu près que j'écoute, 5-10 minutes.
Ah, donc là, du coup, j'imagine que tu as un avis qui doit ressortir justement où, quand on aborde un match comme celui-ci, quand on est le Real Madrid, quand on est Manchester City, comment on aborde justement un quart de finale de Coupe d'Europe, surtout quand on est dans... On va se mettre de notre point de vue d'abord. Madrilène, on joue contre le champion d'Europe en titre. Qu'est-ce qu'on... C'est quoi tu penses, ouais, par rapport à ça?
Déjà, il faut assumer que City est favori. Parce que ça, c'est une réalité, c'est un fait. City, Manchester City, le tenant du titre. Donc Manchester City, au regard de la performance de la saison dernière, le 4-0, ils sont favoris sur le papier, en amont, avant le match, quoi qu'il arrive. Et ça, il faut l'assumer. Maintenant, on sait très bien aussi que quand le Real Madrid n'est pas favori en Ligue des Champions, c'est là où il est le plus dangereux. Ça, on le sait aussi. Ouais. C'est comme ça que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions en 2022, d'ailleurs. Et plein d'autres Ligues des Champions. Je pense à la Ligue des Champions en 2000.
98 aussi.
En 2018, la dernière de Zidane. En 2016.
Ouais, justement, vous allez voir.
C'est qu'il y a énormément de Ligue des Champions. Le Real Madrid gagne. Alors. Non, mais 98, le Real Madrid n'est pas favori, il gagne. 2000, le Real Madrid n'est pas favori, il gagne. 2016, le Real Madrid n'est pas favori, il gagne. On peut dire que 2014, ils ne sont pas favoris, ça gagne quand même. 2018, pas favori, ça gagne. 2022, pas favori, ça gagne. Et ça, c'est les Ligues des Champions que nous, on a vues. Parce que les Ligues des Champions de mes grands-parents, moi, je ne les ai pas vues, je ne sais pas comment ça s'est passé.
Là, on est un peu plus favori, je pense. Après.
Je pense aussi.
Un peu
je
plus.
Pense aussi. Mais moi, il y a un truc aussi qui me fait dire que, attention, danger. En tout cas pour City, c'est que ça va être très compliqué pour eux de réitérer la même performance que l'année dernière à l'Etihad. Surtout que, comme l'a dit notre invité, Arthur, je crois, ils ont des problèmes défensifs cette saison et ça se voit. C'est pas le Manchester City de l'année dernière, en tout cas, quand je regarde Manchester City actuellement. La performance de City l'année dernière, d'un point de vue défensif, c'est-à-dire pressing haut, total, dans le camp du Real, asphyxié, je ne sais pas s'ils vont réussir à le refaire, surtout que visiblement Ruben Dias n'est pas à son niveau selon Arthur. Kyle Walker, on ne sait pas s'il va être là.
Exactement.
Guardiola qui ne devrait pas jouer,
je crois. Guardiola, je ne sais pas, je ne connais pas son niveau. Et c'était qui le dernier là? Il y avait un défenseur central encore.
Il y avait Ake aussi. Hein. Ake, je ne sais pas s'il s'est blessé pendant la
Ake est blessé, mais il y en a un autre.
En tout cas, hier, les trois défenseurs, c'était Stones. Stones,
je ne sais pas ce que ça... Parce que Stones, l'année dernière, il avait un rôle très particulier. Il était donc dans la ligne de 4, mais dès qu'ils avaient le ballon, il passait milieu de terrain. Il faisait ce surnombre au milieu de terrain pour la possession du ballon. Et comme, il le faisait très bien, d'ailleurs.
Comme Ivan Elguera en 2000.
Exactement. C'est la référence. Mais du coup, est-ce que Stones a le même niveau que l'année dernière? C'est vrai, c'est plein d'interrogations comme ça. En fait, je ne sais pas s'ils vont réussir à réitérer ça. Autre point, moi, qui est très important, c'est que le Real Madrid a eu 9 jours pour préparer ce match. Et je sais que le staff technique, donc je vais citer les noms, Davide Ancelotti, le fils d'Ancelotti, Francesco Mauri et Simone Montanaro, je pense qu'ils ont travaillé ça au détail près.
Comme des bons Italiens.
Quelle défense choisir pour maintenir le plus de solidité possible? Quel plan face à Haaland? Bon, on le connaît tous, c'est Rudiger. Comment utiliser Kroos pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions, etc., etc. Il y a plein de clés comme ça qu'ils ont dû travailler pendant 9 jours parce qu'il n'y a pas eu de match. Ce week-end, il y a eu la Coupe du Roi, la Liga n'a pas été jouée, pendant que City, eux, ils ont joué la semaine passée face à Arsenal, Aston Villa en milieu de semaine, plus Crystal Palace hier. Et dernière chose, moi, je pense que ça reste quand même le bon moment pour jouer Manchester City. Donc déjà, au regard du calendrier, parce que le Real Madrid a eu plus de repos que City. Et je pense au regard de la dynamique. on est en quart de finale de Ligue des Champions au mois d'avril, début de mois d'avril. City n'a pas encore atteint, tout comme le Real d'ailleurs, son niveau
optimal.
Je pense qu'ils l'atteint, ils vont l'atteindre à partir du mois de mai, et je pense que c'est comme ça que prépare Pep Guardiola ses joueurs et son équipe pour qu'ils soient au mieux au mois de mai, un peu comme le Real avec, enfin depuis des années avec Pintus. Donc c'est peut-être le meilleur, c'est peut-être le bon moment pour les jouer justement, un quart de finale quoi. Donc à voir. Après ça va jouer sur des détails, c'est un match de Ligue des Champions, Manchester City est favori, ils ont des grands joueurs, Grealish, Foden il fait une saison incroyable, Haaland qui va se réveiller très certainement à ce moment-là. Ça va être compliqué, mais ça va être un beau match justement. Moi j'adore ces matchs-là, c'est ce qui fait. J'attends ça toute l'année.
Moi justement, je suis aussi enthousiaste à l'idée de d'une rencontre comme celle-ci, surtout qu'on va reprendre les Ligues des Champions.
Puis dernière chose, c'est pas juste pour finir, c'est pas le même Real Madrid que la saison passée. Le Real Madrid a énormément changé tactiquement. Le Real Madrid joue beaucoup mieux, moi je trouve. Le 4-4 de Losange permet aussi d'avoir un joueur en plus au milieu de terrain, donc d'essayer de mieux ressortir le ballon, de même d'avoir des phases de possession un peu plus longues, chose qui peut être très importante face à City, et devant les flèches pour les transitions avec Vinicius et Rodrigo, donc facteur X Bellingham qui fait une saison incroyable aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui me font dire que, et s'il vous plaît, que Tchouaméni soit en défense centrale.
J'ai l'impression que tout le monde est unanime sur cet aspect-là, hein, de Tchouaméni défenseur central plutôt que Nacho aux côtés de
Rudy. Je suis plus Nacho, moi.
Logique. Logique.
Pas mal.
Ah, clairement. Mais bon, je vais commencer à effrayer un petit peu Arthur, hein, puisque il fallait que je sorte tout ça, parce que c'est vrai que je regarde les quarts de finale de Ligue des Champions et aussi les confrontations du Real Madrid historiquement au cours de ces 25 dernières années. Ben justement, Johan disait donc la Ligue des Champions 98, on n'était pas forcément favori, ou Pablo le disait également, mais il y a quelque chose qui est quand même très fort à chaque fois, c'est que il y a eu la demi-finale contre Dortmund qui était champion d'Europe en titre. Le Real est passé. En 2000, il a fallu jouer contre le Bayern Munich en demi-finale. Manchester United en quart de finale d'abord avant le Bayern Munich. Manchester United en quart de finale.
Tenant du titre.
Le Real est passé, en plus en allant gagner à Old Trafford. En 2002, il a fallu battre le champion d'Europe en titre qui était le Bayern Munich. Et le Real est passé justement donc au match retour.
En quart de finale.
Tu disais quart de finale. Quart de finale puisque
ouais, oui, c'est un quart de finale parce qu'en demi c'est voilà.
le Barça avec Barça. Zidane qui me bon
c'est le petit lob au Camp Nou là.
Le plus beau, l'un des plus beaux, c'est mon meilleur souvenir en tant que madrilène.
Je tiens à préciser que c'est pas un lob, hein. C'est un tir détourné.
Johan,
quand c'est Zidane, je préfère être précis parce que j'ai pas envie.
Les faux procès.
Salut Chem.
Non, laissez.
J'avais coupé mon micro, je rigolais.
mais on continue. 2014, qui est champion d'Europe en titre? C'est le Bayern Munich.
Le Bayern.
Et justement, il y a un Real Bayern qui passe, ouais. Mais le Real Madrid. Encore, hein, on peut continuer comme ça, justement, même sur la Ligue des Champions 2022.
Chelsea,
tenant du titre. Ouais. Et le Real Madrid joue contre cette équipe. Et finit par passer, s'imposer.
Et 2017-2018,
d'ailleurs aussi, après, on se succède à nous-mêmes.
Pablo. Ah oui, voilà, on se nous-mêmes. on récupère le titre.
Bon, après, je ne vais pas vous mentir, les gars, moi, personnellement, j'accorde pas trop d'importance à toutes ces statistiques, historiques, etc.
Pas des statistiques, c'est des signes.
C'est des signes qui montrent que voilà, le Real Madrid, quand il joue contre le tenant du titre, parce que moi, on m'a dit non, le Real Madrid, vous allez jouer contre City, c'est mort, etc. Mais j'ai dit, mais.
Non, mais attention, ça peut être mort. Hein, parce que ça peut. City, ils sont très très chauds. C'est les meilleurs. meilleur.
Si nous bastonne maintenant, on fait comment?
Voilà, c'est ça. Mais il y a des choses d'un point de vue tactique, d'un point de vue dynamique, d'un point de vue calendrier, d'un point de vue tout qui te fait dire que
oui, qu'il y a moyen.
C'est peut-être le bon moment de les jouer. Et que, attention, quoi qu'il arrive, tu devais les jouer si tu veux gagner le trophée, tu dois les jouer.
Ah, bien sûr.
Peut-être que le bon moment, c'est maintenant. C'est
pas. Moi, je sais pas si vous rappelez. Qu'on a fait l'après-match contre Leipzig. Moi, je disais que le club contre qui j'ai envie de tomber en quart de finale, c'est City. Parce que je pense, en fait, contrairement à la saison dernière, la dynamique n'est pas la même. Parce que City, la saison dernière, à partir de février, moi, je me rappelle, j'étais à Londres à cette période-là, ça y est, c'est un raz-de-marée. Les mecs, ils ne laissent rien. Ils ne laissent aucune miette à personne. Même on a voulu nous faire croire qu'il allait avoir un pseudo-choc entre City et Arsenal dans la lutte pour le titre. Ça a été réglé, mais assez rapidement. Donc, je pense que la dynamique n'est pas la même parce que la dynamique de City, notamment en termes de certitude dans le jeu, n'est pas la même aussi. Donc, je pense que oui, c'est peut-être la période où on peut avoir, entre guillemets, beaucoup plus de chances que la saison dernière de faire tomber City. Mais bon, après, comme je dis, moi, personnellement, les stats, les signes et tout, j'y accorde pas parce que, on est deux cartons rouges, on se fait bastonner.
Mais moi, je veux connaître l'avis d'Arthur, puisque là, je lui dis que t'es champion d'Europe, tu joues le Real Madrid l'année d'après, tu perds. T'en penses quoi, Arthur?
Mais forcément, moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'est toujours l'aspect Real Madrid en Ligue des Champions qui fait très peur. Et j'oublie pas, on peut parler de l'année dernière, mais on peut aussi parler de l'année précédente, que j'oublie pas non plus. J'oublie pas l'élimination au Bernabéu avec ses deux buts dans les arrêts de jeu, qui fait que j'ai peut-être vécu l'un des pires moments d'ailleurs en tant que supporter à ce moment-là. Mais tout ça pour dire qu'en fait, les stats, ça veut tout et rien dire dans le sens où on peut les tourner dans le sens qu'on veut et on peut les arranger un peu de la façon dont on veut, tu vois. Parce que moi, je pourrais très bien parler du 4-0 de l'année dernière, alors qu'en fait, là, je suis en train de te parler d'il y a deux ans. Et d'il y a deux ans, c'était dans l'autre sens. Donc, si tu veux, ça veut tout et rien dire. En fait, pour moi, il n'y a même pas besoin de prendre des stats avec le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid. C'est le meilleur club.
Arrête, Arthur, arrête.
Ah non, mais c'est vrai, qu'est-ce que tu me dises?
Tu vas beaucoup plus arrogant, Arthur.
Pour moi, il n'y a pas à prendre de stats. Ça se jouera sur le terrain entre hommes, et puis on en reparlera dans 2-3 semaines.
C'est tout. Voilà, j'aime quand tu parles comme ça. Il n'y a pas de ouais, Real Madrid. Vas-y, sur le terrain.
C'est non, mais attention, moi je souligne quand même qu'il y a toujours le Real Madrid. Maintenant, toujours la même chose, je reste toujours confiant dans le principe du jeu. Mais je pense que si on n'aborde pas des matchs de façon confiante, on n'est pas réellement un supporter. Parce que si on n'est pas confiant et qu'on pense qu'on va perdre, on ne regarde pas le match.
Bien sûr. Non, mais je t'embête plus qu'autre chose.
Mais j'allais dire, dans la communauté Citizen, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus, on va dire, assurées, beaucoup plus arrogantes qu'Arthur. C'est bien d'avoir quand même cette dose d'humilité quand même au moment de ce match quand même.
Non, mais ne parlons pas de cette communauté, je pense que c'est un mauvais débat à mettre en place.
On aura l'occasion d'y remédier dans les prochains mois, peut-être sur la saison prochaine, n'est-ce pas, Arthur?
Exactement, en espérant, ouais. ça serait bien.
Ah, non, mais clairement. Mais non, mais c'est vrai que là, c'est intéressant d'avoir aussi cette donnée-là sur le match aller. Mais. Je pose la question volontairement à Hicham, hein, parce que justement, donc là, le 11 qui va commencer mardi, on a commencé à donner, on va dire, à décliner un petit peu les joueurs en question. J'allais dire, donc, pour la défense, on a compris que ce serait Tchouaméni avec Rudiger. Au milieu, donc, voilà, il faudrait qu'on se pose la question, parce que pour moi, ça va être le problème.
Il n'y a aucun problème, Gilles. Tu vois des problèmes partout.
Ah, mais
Pablo. Camavinga, Valverde, Bellingham, c'est fini. Tu veux quoi d'autre? Il n'y a pas d'autre solution. Camavinga, Valverde, Kroos, Tchouaméni.
Ah, mais voilà.
Bellingham, pardon.
T'as vu, là, t'as dit Kroos. Moi, il est là, mon problème, en fait.
Comment veux-tu qu'il y ait un problème avec Toni Kroos? Il n'y a pas plus safe que Toni Kroos en Ligue des Champions. À part quand il joue numéro 6 tout seul. Parce que 40 Chelsea pète un câble. Voilà.
Non, mais justement, parce que les clés de ce qui nous a fait tomber l'année passée, entre autres.
Il était tout seul au milieu de terrain, il était solo. Là, il y a Camavinga, il y a Valverde, t'inquiète pas. Et il y a Tchouaméni juste derrière, t'inquiète.
Il y a Tchouaméni comme Camavinga à gauche. Hein.
Tout va bien. Et Camavinga à gauche, tout va bien se passer, t'inquiète pas.
Voilà, parfait. Donc là, du coup, donc, cette histoire du milieu, elle est passée, mais moi, c'est surtout l'attaque. Donc Vinicius.
Tu veux mettre Rossellou? Tu veux mettre aussi c'est comment?
Mais justement,
c'est Rodrigo.
Ah mais justement, parce que là, j'allais dire Rodrigo, là on l'a vu marquer deux buts, mais avant c'était un peu plus compliqué.
Donc, non mais on a jamais été aussi clair et aussi sûr de quelle équipe devait jouer contre City. Enfin, je suis désolé, c'est cette équipe-là et personne d'autre. Enfin, tu vas mettre Rossellou ni Brahim.
Moi je vous dis juste, vivement l'arrivée d'un attaquant la saison prochaine.
Les remous.
C'est d'ailleurs mon surnom dans le space d'aujourd'hui, hein, je vous le dis. Hein. Mais là, il le dit pas Gilles parce qu'il cache ça, mais.
De.
Mon surnom là, j'ai mis quoi comme nom là pour entrer.
Ah, Mobutu, excusez-moi. c'est un nom de code. C'est un nom de code. Non mais en gros, voilà, on a assuré donc là du 11 titulaire, donc là pour le match aller. On partira justement donc avec tous ces joueurs là qui ont montré des choses au cours de ces derniers jours. Voilà, donc là. Donc, il n'y a pas de doute, par exemple, Hichem, pour toi et pour tout le monde de notre côté.
Non, ouais, je suis assez d'accord. Globalement, tu sais quel 11 va jouer. Et clairement, la titularisation de Camavinga en numéro 6 pour moi, c'était peut-être la seule question. Après, le reste, c'est assez évident. Donc, tu auras fait des Valverde et tu auras... T'auras bien évidemment Bellingham, t'auras bien évidemment Kroos parce qu'il fait une saison incroyable et je suis un des détracteurs de Toni Kroos, surtout sur la saison dernière, comme tu le rappelais, qui était trop emprunt à la nonchalance. Là, cette saison, il est juste incroyable. Il me fait aimer le football et il me fait aimer encore plus son poste.
Il fait le grand du quartier quand même. Hein. Il défend A.
Mais à juste titre.
Non, mais il défend pas.
Parce qu'il sait que derrière il y a des valeurs sûres. Alors que la saison passée, c'était pas le cas.
Et donc, de ce point de vue, tu vois, au milieu de terrain, c'était peut-être la question. Et après, devant, ben, je vois difficilement Rossellou jouer un match de cette envergure en Ligue des Champions, en tout cas en tant que titulaire. Mais ça, c'est si jamais t'as Rodrigo qui te fait un gros caca sur le terrain, bien évidemment, qui sort et qui laisse sa place à Rossellou ou peut-être même à Brahim Diaz.
Voilà, moi je pensais
Brahim.
Moi je veux surtout, moi j'aimerais bien voir titulaire, par exemple, j'aimerais bien voir titulaire un ancien de la maison de Manchester City, tu vois.
Après, Ancelotti peut nous surprendre, après c'est pas trop son genre,
oui,
mais...
Bien sûr, il peut.
Et
il nous a surpris la saison passée en laissant Rudiger sur le banc au match retour.
Ouais, ça c'était catastrophique comme chose.
C'était une dinguerie, ça, quand même. Ça, je tiens à dire, c'est une dinguerie.
C'est comme Zidane qui nous surprend en mettant Ramos dans un 4-3-3. Dans un
3-4-3. Après, c'était pas forcément une dinguerie, Pablo, parce que je crois que. C'est qui était blessé
pas blessé, c'était, je crois que c'était un carton rouge. Ça devait être David Alaba ou Militao.
Oui, il y en avait un qui était suspendu.
Militao suspendu, ouais.
Ouais, non, voilà.
Il est pas suspendu au match retour, Militao, la saison dernière.
Non, au match aller.
Oui, pardon. Et
que le match aller, en fait.
C'est ça.
Ouais. Après, voilà, comme il y a une hiérarchie dans. C'est pour ça qu'à mon avis, il avait mis. Voilà, remplaçant.
Bref.
Ça pour dire que. Voilà, sur le front de l'attaque, il y a très peu de surprises également. Et voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, hâte d'être mardi soir pour voir cette équipe.
Et Arthur, côté City, c'est le 11 qui pourrait ressortir et qui devrait ressortir.
Bah écoute, moi je vais dire le 11 que j'aimerais bien. Alors au cas, on ne sait pas si Ederson sera revenu, mais c'est pas forcément très grave parce qu'Ortega est un très très bon gardien, si ce n'est meilleur qu'Ederson sur sa ligne. Ensuite, en défense, s'il n'y a pas de problème de blessure d'ici là, pour moi ça sera Diaz, Stones, Akanji, Garviold. Parce que Walker, ça risque d'être trop juste et il ne sera pas prêt physiquement pour assurer face à Vinicius. Milieu terrain, Rodri, De Bruyne, Foden, normalement. Et devant, Grealish, Haaland, Bernardo Silva. Si pour moi, Guardiola met cette compo-là, c'est la meilleure composition possible. Et ça te laisse sur le banc du coup du Alvarez, du Lewis, du Kovacic, peut-être du Walker s'il revient. Et voilà, en gros, ouais. Du gros. Si Guardiola n'a pas de surprise comme il l'a fait il y a quelques années.
Je vais laisser conclure Pablo parce que je sais qu'il nous le dit à chaque fois qu'on fait en off. Rodri, dithyrambique Rodri. Pablo est dithyrambique sur Rodri.
Pour moi, c'est le meilleur à son poste, tout simplement.
Il est trop fort.
Que ce soit volume de jeu, balle au pied,
présence dans la surface.
Il, aussi. Présence dans la surface, repli défense, tout. Il est, c'est un monstre. Il me rappelle, c'est un mélange entre Yaya Touré, entre Busquets, entre Casemiro. Il fait tout. Il est trop fort.
Il marque beaucoup en ce moment. En plus, c'est ça qui, il apporte une plus-value offensive.
C'est lui qui offre le titre de Ligue des Champions à lui, à City. Hein,
bien sûr. Et puis même cette année, il marque dans plusieurs matchs. Je crois qu'il est déjà à 9-10 buts. Donc c'est quand même énorme pour
c'est
un
point. C'est beaucoup. Non, hein.
C'est vraiment. C'est juste, attends, je vais regarder son contrat. Il s'achève quand 2027, on est en 2024. Ouais, donc dans. Ouais, non, bah, il a quel âge
c'est loin. Hein.
Attends, il a quel âge? Parce que bon.
Il a 27, non
27, ouais, 27, je dirais.
Ah, c'est trop tard. Bon, bah, dommage. Ah,
ouais. C'est dommage, hein.
Dommage.
Mais jamais de la vie, on aurait pu penser que ce joueur de l'Atlético Madrid aurait pu devenir un. C'est même pas un scud que je lance envers l'Atlético. C'est ce qu'on a vu à l'Atlético et ce qu'on a vu à Villarreal.
C'est comme
jamais, mais on aurait pu croire qu'il allait atteindre un niveau, même s'il était bon déjà.
Attention, à Villarreal, il était incroyable.
Non, il était très bon.
À l'Atlético, je pense qu'il a dû perdre son niveau comme tous les joueurs qui passent à l'Atlético Madrid.
C'est Simeone qui l'a bridé à l'Atlético.
Marcos Llorente, tout ça, on connaît. Mais ouais. Par contre, non, City, là, c'est incroyable. C'est...
Attention, je ne dis pas qu'il était pas bon. Même à Villarreal, c'était déjà un très très bon milieu de terrain à Villarreal. Hein. Il était très très bon, même très jeune et tout à l'époque. Mais franchement, penser qu'il allait atteindre ce niveau-là, oh là là. Oh là là, c'est incroyable. Mais d'ailleurs, j'ai une petite question. Merci vite fait, poser, Arthur. Ouais. Il devient quoi, Matheus Núñez?
Matheus Núñez, il était blessé ces derniers temps. Là, il est revenu. Il joue pas mal dans la rotation, donc il a moins joué ces dernières semaines parce qu'il n'était pas, au top physiquement parlant. Mais par contre, dans les rentrées qu'il fait, moi, je le trouve très, très intéressant. Un joueur très technique. Et encore une fois, c'était un plan B de base, hein, parce que le plan A, c'était plus Paqueta. Bon, après, il a eu ses problèmes avec ses paris sportifs, blablabla, je sais pas trop quoi. Donc, en fait, on s'est rabattu sur Núñez. Et au final, Núñez est un joueur qui, en tant que rotation, tu vois, c'est un super joueur. Super joueur de ballon. Et je pense que l'année prochaine, tu sais, toujours avec ce temps d'adaptation du système Guardiola. Je pense qu'il aura peut-être un rôle peut-être un peu plus important, il jouera peut-être un peu plus et il sera surtout meilleur. Mm-hmm. Mais j'ai vu que même avec le Portugal, il était très performant aussi. Donc je pense que c'est...
Parce que pour l'avoir vu jouer à l'époque au Sporting, j'étais parti à José Alvalade en février 2022. Waouh, c'était
impressionnant. Ouais, très bon joueur. Hein. Ouais. Très, techniquement, il me fait penser un peu à Bernardo Silva dans ses touches de balle. Tu vois, il est vraiment très technique. Bon balle au pied, donc bonne plus-value ce joueur. Ouais.
Ah ben, on reconnaît bien là le style de Johan, hein, sensible au championnat portugais qu'il a dû voir ce week-end avec.
Hier, c'est magnifique le match hier. Sporting Benfica, c'était fabuleux.
Comme quoi, hein, voilà, on est dans l'esprit madridiste, on peut regarder d'autres choses que le Real Madrid, surtout quand on n'a rien à faire d'autre.
j'ai regardé le PSG faire tourner.
Ouais, bon, on s'est bien ennuyé. Pablo, mais ça c'est autre chose. En plus,
moi, tu m'as pas demandé mon avis sur la tactique. Hein.
Qu'est-ce qu'il y a ?
T'es vilain. Hein. Tu m'as pas demandé mon avis.
Sur la tactique. J'ai entendu que tout le monde était d'accord. Donc du coup, pourquoi je vais
demander... Non.
Ah vas-y, mais parle alors.
Je ne parle plus.
Ah vas-y, parle. Vas-y. je m'excuse. Pardon. Vas-y.
Non, plus sérieusement. Après, moi, les gars, je vous cache pas. Autant vous, le Real Madrid est sur une bonne dynamique, ça joue bien. Mais moi, franchement, le 4-4-2 en losange face à un Manchester City, je suis vraiment, vraiment convaincu du tout. Je suis pas convaincu du tout. Franchement, je suis pas serein. 4-4 dans le losange, je suis pas serein. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas.
Mais toi, tu souhaiterais quoi, toi ?
Après, tu sais, j'ai un petit peu le même discours depuis le début de la saison, mais je pense que Ancelotti ne le fera pas. Moi, c'est le 4-2-3-1 qui me plairait le plus avec Jude Bellingham, Jude Bellingham en second attaquant bien reculé ou meneur de jeu bien reculé, tu vois. Moi, c'est ça qui m'intéresserait le plus, et au moins, on optimisera sur toutes les forces qu'on a offensives. Comme ça, Vinicius jouera à gauche, à droite, on mettra, je sais pas, peut-être un Rodrigo ou quelqu'un d'autre, et en pointe, on mettra un attaquant, tu vois. Moi, c'est ça que j'aimerais bien. Bah, pourquoi pas à droite mettre Brahim, et en pointe mettre Rodrigo, tu vois. Et ça, j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça, mais bon. Je pense que Carlo Ancelotti n'est pas du tout de cet avis-là. Je pense qu'il va rester sur son 4-4-2 en losange. Et bon, on va voir comment ça va se passer. Mais moi, je suis pas serein, parce que quand tu vois City, la largeur notamment, la gestion de l'espace, en fait, tu vois, de la largeur du terrain que prend Manchester City, surtout en attaque, quand tu es en 4-4-2 en losange, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir facilement des situations de 2 contre 1 par rapport au de 1 contre 2 pour le coup concernant le Real Madrid par rapport aux latéraux, tu vois. Et moi c'est ça qui m'inquiète un petit peu parce qu'il n'y a pas justement ce repli défensif que devra assurer par exemple un Vinicius Junior s'il jouait arrière gauche, s'il jouait ailier gauche par exemple.
Oui, parce qu'il a déjà joué arrière gauche en demi-finale Ligue des Champions.
Ouais, en effet.
Ouais. Je l'ai encore en travers de la gorge, celle-ci.
Ouais, moi aussi. Ouais. Merci, merci qui vous savez.
Après, il y a Vinicius qui a joué piston aussi un jour. Hein.
Ah oui, c'est...
Ouais, merci qui vous savez. Merci qui vous savez. Toujours, cet assassin.
Il y a un match, je m'en souviens, contre Betis, où il avait joué piston, non? On perdait 4-3, non? Comme ça.
Des coachs champions du monde 98 qui le font jouer ailier droit. Qu'est-ce que ça veut dire?
Franchement,
tu peux pas comprendre le football. Ça, c'est un football. il faut un niveau.
Justifie rien, Hichet.
Bah, Arthur, il parle de Zidane. Hein, c'est des expéditions hasardeuses.
Des balbutiements tactiques. Des égarements.
Des égarements d'étonnement.
Vous voyez les consignes. Vous voyez les consignes sur Football Manager ?
Mais oui !
Ah, c'est Zidane, ça.
Prenez du plaisir.
Prenez du plaisir ! Voilà, c'est ça. C'est Zizou, ça.
Moi, je peux pas attaquer Zinedine Zidane pour tout ça.
Ouais, mais moi, j'ai du mal. Mais non, il y a des mois, il mérite.
Prenez du plaisir, putain, c'est trop ça. Prenez du plaisir.
Pour la petite histoire.
Mais je préfère le faire en antenne. Mais bon.
Pour la petite histoire, le prenez du plaisir. Moi, c'était quand j'étais avec mon meilleur pote qu'on avait des DST à. Tu vois, des travaux dirigés à faire, qu'on devait présenter ça à la classe, on n'avait pas travaillé. On se disait, on prend du plaisir, c'est tout. Et à la fin, on avait des bonnes notes. Donc ça va, tu vois.
Heureusement.
Mais non. C'est sur ça qu'on va conclure cet épisode. messieurs, merci. On a fait presque une heure. Ça fait plaisir. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait plaisir. Arthur, merci beaucoup
pour
avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que la prochaine, ce sera juste après le match. Allez. En Ligue des Champions, peut-être qu'on t'en invitera aussi pour préparer le match retour, puisqu'on aura peut-être plus de données et plus de notes pour pouvoir, on va dire, aborder la rencontre. Hein,
avec plaisir.
Il y a pas de souci. Il y a le petit qui me dit qui. Tu veux?
Oui, je veux.
Tu veux parler?
Oui, je veux parler.
Voilà, c'est bon. T'as participé. Merci, mon petit. Voilà. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, voilà, on se retrouvera peut-être, voilà, donc très très vraisemblablement, donc dans les prochains jours à ce propos. Messieurs, merci, comme d'habitude, hein, toujours au top. Et ben voilà, donc maintenant, voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, messieurs, à la Madrid.
À la Madrid.
À la Madrid.
À Madrid.